Salut, bienvenue sur le Bifocus Podcast. Cette semaine, à l'émission, je reçois Mia Fortin, une femme qui a un parcours hors de l'ordinaire. Elle a passé par plusieurs défis, autant de dépression, d'anxiété et de troubles alimentaires, ce qui l'a menée à prendre un chemin plus spirituel pour ensuite se diriger vers la compréhension du cerveau et de la psychologie humaine. Aujourd'hui, elle nous livre son histoire avec tout son cœur et son courage. Je vous souhaite d'apprécier, comme j'ai apprécié cet épisode-là. Si tu sens le besoin de partager, n'hésite pas. Et je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas manquer aucun épisode. Sur ce, bonne écoute.
Quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé des gens qui partageaient leur mode de vie. Que dans mon entourage, personne n'avait ce mode de vie-là, mais moi, je voulais vivre ça. Fait que je vois des gens en ligne qui vivaient ça, je me disais, hey, au moins, ça existe à quelque part, tu sais. C'est ça.
Tu te sentais moins seule.
C'est ça. Fait que c'était comme ça que ça a commencé. T'sais, entre autres, moi, c'était les voyages. Ben j'ai commencé à voir des gens qui voyageaient, puis je suis comme, OK, c'est possible. Puis, ouais, c'était à l'adolescence, là, les réseaux sociaux. Pour moi, je pense, la première fois que j'ai compris vraiment que c'était un outil puissant, c'était quand j'ai vécu des troubles alimentaires. Je connaissais pas personne qui connaissait ça, puis je me sentais très, très seule. Puis j'ai trouvé des chaînes YouTube de filles qui racontaient leur histoire. Puis ça m'a tellement fait du bien, là. Ça m'a fait sentir normale, ça m'a fait sentir que je peux guérir, que... Fait que c'est ça que j'aspire à être, t'sais. En partageant mon vécu à moi, mais s'il y en a qui ont un vécu similaire, ça va pouvoir jouer ce rôle-là dans leur vie.
Ben c'est bon que tu en parles justement parce que ton vécu est intéressant. Parce que là, en ce moment, tu es neuroactive coach.
Ouais.
Donc, si on vient sur la première question, les réseaux sociaux, avant, tu les utilisais plus au niveau de t'exprimer, puis de t'exprimer ce que tu ressens, puis avec des photos. Mais là, tu dois aller chercher un consommateur pour éventuellement les aider puis les accompagner. Fait qu'il faut que tu démontres une certaine expertise. Donc, les réseaux sociaux viennent en un deuxième temps puis d'une façon différente. Mais là, c'est ça. Ton histoire commence par, plus au niveau de l'adolescence, que là, tu te mets à te questionner sur toi-même, sur ton environnement, sur qu'est-ce qui t'entoure, puis tu sens qu'il y a comme un clash, que tu te sens pas comprise, tu es différente. Puis là, ça en a découlé que tu es devenue coach.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, absolument. J'ai toujours été, même enfant, quelqu'un qui se posait des questions dans la vie, qui observait son environnement, puis qui voulait faire du sens du monde, de la société dans laquelle on vit. À l'adolescence, ben j'ai vécu toutes sortes de défis. J'ai vécu beaucoup de stress, de l'anxiété, de la dépression qui m'a amenée à vivre même des troubles alimentaires, comme je viens de parler. Puis je me sentais... Je comprenais pas d'où ça venait, en fait. Ce genre de souffrance-là qui se présentait sous plein de formes. Sentiment d'être toute seule. Puis que c'était un peu tabou, ces choses-là, tu sais, j'arrivais pas à trouver de solution pour m'en sortir. Puis j'ai quand même vu différents médecins qui m'ont dit bon, ben c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, mais il n'y a pas grand chose qu'on peut faire par rapport à ça. T'sais. Même ils m'ont parlé que de la médication, ça pouvait aider, mais pour moi, ça ne réglait rien, ça n'enlevait pas. C'est ça, les questions existentielles que j'avais, tu sais, que tu sais, c'est adolescente, là, super jeune, je comprenais pas c'était quoi le but de devenir un adulte, tu sais, ça me tentait même pas, j'étais pas motivée dans ma vie, j'avais pas hâte à grand-chose parce que, justement, moi, je regardais la société d'aujourd'hui, puis honnêtement, il y avait pas vraiment d'adultes autour de moi qui vivaient une vie que moi, j'avais le goût de vivre.
Ok,
j'avais la misère à trouver ma place, puis d'avoir en fait une direction à ma vie. Puis j'ai vécu ça comme assez longtemps que je me suis tannée moi-même. Je me suis tannée d'être démotivée, je me suis tannée d'être déprimée. J'étais plus capable d'accepter que c'était ça ma norme, d'être anxieuse tout le temps, de me sentir différente partout où j'allais. J'étais comme... pourrais avec long de ma vie, là, si je reste de même.
Mais comment, justement, ça se manifestait dans la vie de tous les jours? C'était quoi le feeling que tu avais? Puis est-ce que tu en parlais autour de toi? Les gens te comprenaient-tu un minimum?
Bien, je pense que être adolescent, tout court, c'est pas évident de se comprendre. Là, c'est comme, t'es un enfant, puis la vie, c'est simple. Puis là, du jour au lendemain, t'as des hormones en dedans de toi, puis tu vis toutes sortes de nouveaux contextes sociaux, t'as plus de responsabilités. Fait que je vivais tout ça en me comprenant pas. T'sais, j'étais chamboulée de partout, mais moi-même, je me comprenais pas. Fait que là, oui, j'essaie d'exprimer que j'étais pas confortable à mes parents, à mes amis, mais vu que je savais même pas trop d'où ça venait, c'était pas facile pour eux de m'aider, là. Puis, tu sais, je pense pas que c'était de la faute à rien puis à personne. Je pense que j'avais besoin de sens. Tu sais, ça, c'est mon chemin à moi. J'avais besoin de trouver vraiment une mission dans ma vie, tu sais. Puis vu que je l'avais pas, ben c'est là que j'étais pas motivée. Tu sais, j'étais pas motivée d'aller à l'école quand j'étais ado. J'ai toujours eu des bons amis, par contre. Je suis vraiment chanceuse, là. J'avais des amis qui étaient là pour moi, même si je me sentais différente, puis tout ça. Je me sentais différente, mais pas tant toute seule que ça. Tu sais, je savais que... À quelque part, j'ai tout le temps gardé un feeling vraiment profond que j'allais trouver mes réponses. Que j'allais trouver mes réponses, puis qu'au fond de moi, ben, je suis une belle personne, puis il y a des belles personnes autour de moi. Tu sais, j'ai gardé ce positivisme-là, même si j'étais perdue. Même si ça faisait pas de sens, je savais qu'un jour, ça allait faire du sens. Mmh. Puis c'est en fait à ce moment-là de ma vie qui est né, je pense que pour me sortir de ce tourbillon-là, il a fallu que j'en crée un sens. Puis c'est là qu'est née pour moi la mission, justement, que bien, j'allais apprendre comment sortir de ça. J'allais apprendre comment tomber amoureuse de ma vie, comment être bien avec moi-même. Puis après ça, j'allais le partager avec les autres. Puis je me suis dit que je devais pas être la seule, puis que si c'était ça le chemin que j'avais à vivre, bien aussi bien de le partager, tu sais, par après.
Donc, selon toi, la principale cause de ton stress puis de ton anxiété, c'était le manque de sens à ta vie, que tu comprenais pas trop.
Ouais.
Ça servait à quoi, en fin ouais. de compte? T'sais?
Oui, et je pense que c'est une passe normale de se questionner. T'sais, pour vrai, à l'adolescence, c'est normal de se dire « OK, moi, c'est quoi ma place dans le monde? Qui je veux être? » Parce que là, mais mes parents, ils m'ont appris quelque chose. À l'école, on apprend quelque chose, mais moi, dans le fond, c'est quoi que je veux? C'est quoi qui fait du sens? Puis là, j'avais pas de ressources. J'avais pas de guide à ce moment-là pour m'aider à trouver une direction. Mmh. Ou à explorer mes options. Puis c'est ça qui m'a poussée à faire des recherches, t'sais, à essayer des affaires, à aller au-delà de juste l'environnement que j'avais, mais t'sais, d'essayer d'aller trouver quelque chose de nouveau que je connais pas. Puis c'est ça aussi qui m'a motivée à dire, ben j'ai envie de devenir cette personne-là, qui peut guider les gens quand ils sont à cette période-là de quête de sens profond dans leur vie.
OK. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as pas suivi les sens, tu sais, déjà instaurés? Parce que, tu sais, on peut dire, va faire travail, paye-toi une maison, va chercher une famille, une bonne job. Tu sais, ça peut être un sens déjà construit, ouais. déjà fait. La société peut un peu nous l'imposer, tu sais, en ouais. grandissant. On se le fait dire rapidement que, regarde ça, c'est une façon de vivre, puis on l'a testé, ça va bien, tout le monde est ouais. correct, heureux, fait que tu peux faire ça. Pourquoi toi, t'as pas embarqué dans ce moule-là, puis t'as dit, je veux trouver mon propre sens?
Mais pour vrai, c'est comme, j'ai essayé, j'aurais aimé ça. Ah, que j'aurais aimé ça, comme aller à l'école, puis que ça allait bien, puis que je me pose pas de questions. Mais moi, avec moi-même, c'est comme si je pouvais pas me mentir. Comme, déjà à l'adolescence, c'était pas assez pour moi, ça. C'était pas assez de faire comme tout le monde. Puis, il y a aussi une partie de mon histoire à moi qui est unique, qui est que... je viens d'une famille de voyageurs. Je viens d'une famille où j'ai habité dans différents pays quand j'étais jeune. Fait que je pense que ça existait déjà dans mon mental qu'il y avait plein de façons de vivre la vie. Que dans certains pays du monde, la société puis ce qui est normal, c'est différent que ce qui est au Québec ici. Mmh. Fait que c'est comme si, pour moi, je savais que ben, la réalité, elle peut être plein de choses différentes. Fait que celle qui était proposée ici, elle me convenait pas, ben j'avais déjà le « OK, ben peut-être qu'il y a une autre réalité ailleurs de possible. » Mais je savais pas où.
Ouais. OK. Fait que c'est vraiment au niveau... Tu le filais que c'était pas ça, ta voix.
Mais non, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse, puis mon corps, il était pas en santé, il était stressé, puis tout ça, fait que je pouvais pas continuer.
Fait que t'as décidé de créer ton sens, au final, puis dire « je vais aller me découvrir ». Découvrir, c'est quoi qui me fait vibrer, et non ce qu'on m'impose de un peu. OK? Puis après ça?
Ben après ça, j'ai trouvé du pouvoir, tu sais.
Ça a été quoi le... La direction que tu as pris, là, tu as parlé tantôt justement d'un peu les réseaux sociaux qui t'ont aidé parce que tu as vu qu'il y avait des personnes qui se posaient les mêmes questions que toi ou qui vivaient des vies que peut-être qui pouvaient t'inspirer.
Ouais, ça a été le début de OK, je vais trouver d'autres genres de réalité. Puis là, en ligne, tu as accès à la réalité des gens de n'importe où sur la planète. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, je me souviens, ado, je commençais à avoir ben, des filles qui voyagent, des filles qui font du surf, des filles qui... Tu sais, puis c'est comme, OK, eux autres, ils trippent, là. Ils font pas juste aller à l'école puis stresser à propos de leur note à l'école, là. Tu sais, c'était comme, pourquoi moi, je partirais pas faire du surf, tu sais, rendu là. Fait que des choses comme ça, les réseaux sociaux, ça m'a permis ça. Jusqu'à temps que j'ai vraiment... Ben en fait, je me suis mis à découvrir des façons alternatives de prendre soin de soi puis de surtout gérer son stress. Parce que moi, je vivais vraiment beaucoup, beaucoup d'anxiété. Fait que, puis des choses comme la médication, ou ça m'a pas aidé, vraiment pas. Fait qu'il fallait que je continue d'essayer de trouver des solutions. Fait que, tranquillement, je me suis intéressée à l'alimentation. Tu sais, faire des changements dans mon alimentation. Puis ça, suivre les façons alternatives. Je me suis mis à avoir des changements dans moi. Tu sais, j'ai comme, ah, c'est vrai que je me suis calmée, c'est vrai que j'ai plus d'énergie. Fait que j'ai continué à suivre cette piste-là alternative jusqu'à découvrir le yoga. Puis le yoga, ça a été vraiment un point tournant dans ma vie. Tu sais, je pense que j'ai une intuition très forte aussi. Puis elle m'a guidée, mon intuition. Quand j'ai découvert le yoga, il y a quelque chose en moi qui a fait comme, hey, là, faut que t'ailles là. Faut que t'ailles suivre ça. Puis j'ai fait confiance à mon intuition. Je suis allée faire une formation de professeur de yoga au Bahamas. Puis ça a été un moment transformateur de ma vie parce que pendant 3 mois, j'ai complètement sorti de mon environnement. Je vivais dehors dans une tente sur la plage. Puis je m'étais engagée pour la formation à me lever à 5h du matin à tous les jours. Pour suivre un horaire très discipliné de méditation, de yoga. On mangeait tout vegan, tout fait à la main, frais. Puis ben j'étais dehors 24 sur 24 pendant 3 mois. Je vivais en communauté où est-ce que ben j'avais pas le temps de penser à mon nombril puis à mon anxiété. Il fallait que je collabore à la vie de société puis de communauté. Puis là-bas, ben j'ai eu accès comme à une nouvelle culture, tu sais, la culture hindoue qui pratique toutes sortes de ben de chants, de différentes formes de méditation, les exercices de respiration, le yoga, puis vraiment, mais là-bas il y avait des enseignants qui étaient des guides comme spirituels, des guides pour ceux qui se posent des questions existentielles, tu sais, fait j'ai pu aller m'asseoir avec eux puis poser des questions, puis souvent leur réponse à eux c'était ben assis-toi puis médite. Puis à ce moment-là de ma vie, méditer, je savais pas ce que c'était là, tu sais, fait que ça a été pénible un peu au début d'être assis en silence avec moi-même puis toute mon anxiété puis toutes mes questions.
Ouais.
Mais j'avais nulle part où aller, tu sais, c'était comme t'es là, tu t'es engagé pour 3 mois puis tu restes assis en silence puis plusieurs heures par jour à tous les jours, puis de le faire, de le pratiquer, puis d'être dans un environnement qui était tellement comme extrême, tu sais, tellement de discipline puis tout ça, ben évidemment que ça l'a apporté des résultats vraiment drastiques, tu sais, de tout a changé à l'intérieur de moi. À ce moment-là, j'avais utilisé l'expression, c'est comme si j'ai déménagé de tête. J'habitais dans une toute nouvelle tête qui était calme, de bonne humeur. Je me sentais comme tellement plus comme l'envie d'aider les gens autour de moi. Je me sentais généreuse parce que j'avais tellement calmé mon système nerveux. j'avais fait vraiment intensément ça. Fait que là, j'ai fait « OK, c'est possible.
Ouais.
Ça se peut de changer de tête. » Ma tête qui était déprimée puis anxieuse, là, était super joyeuse puis calme. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui avait changé? Ben mon environnement, puis ma discipline. Puis... Fait que là, je me dis « OK, c'est comme de la magie, là. Comment ça qu'on on sait pas ça partout que si tu suis certaines règles, certaines procédures, il va y avoir des résultats. » Ça va s'améliorer à l'intérieur de toi.
Fait que dirais-tu que t'es comme sorti un peu du mode de survie pour aller
absolument.
Dans un mode
c'est ça qui s'est passé.
Plus serein?
C'est ça qui s'est passé. Fait que ça a été la première étape nécessaire pour que, OK, là, je suis plus en survie, ben là, j'ai l'espace nécessaire pour aller comme faire le ménage. Parce que il y a une cause, tu sais, si moi, je vivais de l'anxiété puis de la dépression, ça m'est pas tombé de nulle part. Il y a sûrement quelque chose qui avait programmé ça dans moi. Sauf que tant que tu es en mode survie, c'est vraiment difficile d'être capable d'aller s'observer, d'être capable d'aller comprendre qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça. Fait que là, après cette transformation-là, où j'étais calme, bien, je suis revenue au Québec. Puis là, c'était comme le temps de faire le vrai travail, dans le fond.
C'est ça, parce que ce que je comprends, c'est que ton premier move pour ton développement personnel puis atteindre le sens que tu t'es donné, c'était au niveau plus spirituel.
Ouais.
Fait que t'es allé spirituellement pendant 3 mois, ce qui t'a apporté genre une séparation de toi et ton problème.
Exact.
Donc t'as été capable de voir ton problème puis t'étais plus le problème.
Exactement.
Ça. Mais ça n'a pas réglé le problème en tant que tel. Mais t'as pu avoir une vision de celui-ci.
Exactement. Okay. Fait que là, c'est pour ça que moi, dans la vie, je suis pas professeur de yoga, mais je fais du neuroactive coaching. C'est que ça a été une étape transformatrice très puissante que je suis vraiment heureuse si les gens découvrent le yoga dans leur vie. Mais c'était pas assez. Ça a pas réglé le problème, puis il manquait d'outils concrets pour que le changement soit permanent, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, encore là, j'avais mon intuition, ma curiosité, ma quête de vraiment trouver qu'est-ce qui fonctionne pour de vrai, qu'est-ce qui va pouvoir aider les gens. Donc, je me suis mis à continuer d'apprendre plein de choses sur comment qu'on fonctionne comme humain. Je me suis intéressée vraiment intensément au cerveau, parce que j'ai réalisé que c'est là que ça se passe, puis pas mal toutes les approches reviennent à comprendre le cerveau. Puis j'ai découvert le neuroactive coaching. Puis j'ai fait, quelques mois après être revenue des Bahamas, j'ai fait pour la première fois mon cours en neuroactive coaching, parce que moi je l'ai fait 2 fois. Je suis une intense qui veut comprendre les choses jusque dans le dernier des raccoins. Donc là, j'ai fait cette formation-là de 1 an. Pour la première fois, puis là, pour moi, ça a été 1 an de faire le vrai de vrai ménage. D'aller comprendre, OK, le cerveau, il fonctionne comme ça, il se programme depuis la toute première semaine de vie dans le ventre de ta mère. Là. Même avant que tu naisses, ton cerveau, il a commencé à se programmer. Fait que j'ai appris comment ça fonctionne, mais là, ça a tout réveillé, ben, mon histoire à moi.
Mm-hmm.
C'est comme si j'ai repassé au peigne fin toute ma vie, là, pour « Hey boy! » C'est à ce âge-là que j'ai programmé ça, puis « Hey boy, j'ai vécu ça parce qu'avant, j'avais vécu ça », puis tout s'est mis à faire du sens. Là, je commençais à triper parce que là, j'avais des réponses à mes questions.
Oui, bien justement, ouais. Pour mettre les gens en contexte, le cours, parce qu'on s'est rencontrés là, moi puis Mia, ouais. Justement, dans le cours de Neuroactive Coaching, puis c'est une formation sur l'esprit, sur l'accompagnement, mais il y a justement des pratiques entre collègues, tu sais.
Ouais.
Fait qu'on se fait beaucoup coacher.
Énormément.
Et on coach vice-versa, tu sais, pour se pratiquer. Donc, c'est pour ça que là, ça vient nous faire travailler extrêmement sur nos problèmes, puis ça réveille des patterns, puis là, on a des vues différentes. T'sais. Fait que c'est un cours qui est, ma foi, complet, parce que tu travailles sur toi personnellement, mais tu travailles aussi sur le fait d'accompagner tes futurs clients, puis de bâtir une carrière à ce niveau-là.
Totalement. Puis, tu sais, ma philosophie, puis je pense que tu la partages, c'est que la première étape pour être disponible pour l'autre, c'est de s'être occupé de ces trucs avant. Parce que sinon, t'es pas là pour l'autre, t'es en train de gérer tes propres affaires.
Exactement.
Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai refait une deuxième fois. Tu sais, je pense pas que c'est nécessaire pendant tout de le faire deux fois pour tout le monde. Mais moi, la première fois, je sentais que ça avait tellement été une grosse expérience pour moi d'apprendre à me connaître comme ça, que je voulais le refaire, mais là, avec plus de recul, moins d'émotions qui allaient être réveillées à chaque fois parce que, bon, j'avais des choses de mon passé qui n'étaient pas encore mises en lumière. Puis de le faire dans l'optique de, OK, comment que j'apprends ça pour l'autre? Comment est-ce que je le pratique vraiment pour le client? Puis, ouais, j'ai bien aimé cette formule-là pour moi de le faire une deuxième fois.
Donc, ta première fois, c'était plus pour toi, deuxième fois.
Ouais, puis j'étais jeune aussi, tu sais. Tout ça, la première fois que j'ai fait le cours, j'avais 19 ans. Fait qu'il y en a qui arrivent dans le cours des fois qui ont fait plein d'autres approches de développement personnel avant ou qui ont eu des carrières dans d'autres trucs. Moi, j'avais 19 ans, fait que je suis arrivée là avec comme, tu sais, comment dire, tout le monde a plein de choses à apprendre, là, mais c'était comme, j'étais jeune. C'est ça. On va le dire dans même.
Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que tu étais jeune, tu étais la plus jeune du cours. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté justement cet accompagnement-là au niveau coaching? Quand tu te faisais accompagner, quand tu te faisais coacher, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Puis, qu'est-ce que ça t'a amené à quoi, tu sais?
Ouais. La première chose qui est magique dans le neuroactive coaching, c'est que les coachs sont formés pour laisser la place à l'autre. Ils sont pas là pour guérir personne ou le faire à la place de l'autre. Ils sont là pour créer un contenant sécuritaire pour que là, en tant que client, tu puisses explorer ton monde intérieur puis toi, te révéler à toi-même. Puis ça, je sais pas pour toi, mais moi, dans ma vie à moi, j'avais presque jamais eu ça. Tu sais, un espace parce que c'est comme juste, on t'écoute, puis là, t'as la place d'être toi-même.
Parce que t'as rencontré des professionnels, toi, dans ton passé?
Oui, moi, j'avais différentes approches. J'avais déjà vu des travailleurs sociaux, puis des psychologues quand j'étais ado, tu sais. Puis pour moi, j'avais pas trouvé le bon match. Tu sais, je pense qu'il y en a des excellents dans toutes les carrières, mais pour moi, j'avais pas trouvé le bon match. Je pense que... Vraiment, c'est ça, j'avais besoin juste d'un espace, pas nécessairement de conseils, mais d'un espace. Puis là, le coaching, c'est la première chose que ça permet. Et après ça, sans que ça soit des conseils, le neuroactive coaching, c'est une approche qui est assez nouvelle parce que Florent Fusillier, celui qui a créé cette approche-là, il a synthétisé, il est allé chercher dans tout ce qui existe déjà, dans plein d'approches qui existent déjà, il est allé chercher ce qui est le plus efficace. Mm-hmm. C'est quoi qui a vraiment le résultat? Puis là, il a regroupé ça ensemble, fait que les outils qu'on a comme coach, puis la façon qu'on pose les questions qui sont pas aléatoires, c'est tout réfléchi dans la compréhension de comment qu'un cerveau fonctionne. Mm-hmm. Donc, là, t'es avec un coach, t'as un espace sécuritaire où est-ce que toi, tu peux explorer ton monde intérieur, puis t'as un coach qui a appris à écouter avec une écoute active, qui t'écoute, mais qui remarque qu'il y a certaines programmations, que c'est ça. Donc, le coach, il s'est posé la bonne question au bon moment. Puis là, c'est là qu'il y a des changements. C'est là que c'est trippant.
Ouais. Ça, c'est l'aspect... que j'aime le plus quand je rencontre mes clients, là, c'est quand tu poses la bonne question, puis là, tu sens que c'est une bonne question, puis ça va droit quasiment au cœur, parce que là, tu te rends compte de ce qui se passe vraiment dans ton esprit, tu te rends compte de ce qui se passe en dedans de toi, puis tu fais « Oh, OK, c'est pas moi le problème, c'est cet aspect-là de moi qui fait que je réagis comme ça à une situation,
exact.
Qui fait que j'ai pas confiance en moi-là, qui fait que je suis stressé quand ça se passe, c'est pas moi, mais c'est une programmation que je suis capable de voir maintenant, que je peux
c'est
me
ça.
Séparer.
Puis là, il y a un effet boule de neige de tout ça va faire du sens. Parce que toi, tu te connais déjà. Tu te connais, puis la question que ton coach te pose, souvent, tu le sais que c'est ça la question, qu'il faut que tu trouves ta réponse, tu sais. Mais là, quand tu es dans ton histoire puis dans ton programme, tu t'es pas capable de la recevoir, la question. T'es pas capable d'y réfléchir parce que ton programme, il t'embrouille les idées puis tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est tellement aidant d'avoir un coach qui il te laisse dans ton espace faire tout ça, mais que lui, vu qu'il t'observe attentivement, il remarque quand c'est le temps de la reposer, la question. La question que tu connais, là, il te la repose, mais là, c'est parce que t'es dans un espace plus vulnérable, plus ouvert, plus, tu sais. C'est pour ça que là, c'est le bon timing. Puis ça s'apprend, c'est un art, tu sais. C'est ça, le coaching. C'est l'art de la bonne question au bon moment. Puis ça s'apprend pour tout le monde parce que je comprends, là, moi aussi, avec les clients, c'est comme de la magie quand ça se passe comme ça. Mais c'est de la magie aussi dans mes relations personnelles avec mes amis, ma famille, puis tout ça. De savoir communiquer, de savoir observer l'autre, puis attendre que lui soit prêt à recevoir ta question avant de la poser. Tu sais, c'est des choses qui permettent des transformations, puis aussi comme une évolution vraiment profonde. Tu sais.
Puis avant de commencer cette démarche-là, toi, personnellement, au niveau du coaching, puis de te faire accompagner, mais d'aller aussi voir plus loin si tu voulais accompagner, as-tu des doutes? As-tu été retenu par des questionnements ou c'était « all-in, c'est ça qu'il me faut » puis tu le sentais en dedans de toi que c'était ça qui te fallait?
Par rapport à devenir coach?
Par rapport à devenir coach, mais plus aussi au niveau de ton travail personnel, parce que tu as fait spirituel au début, ouais. Tu sentais qu'il y avait un travail qui était fait, mais qu'il restait il restait le problème. Le problème était là, mais tu t'en es séparé, tu sais.
Ouais.
Après ça, tu sais, c'est quoi qui s'est passé en dedans de toi pour faire « c'est là que je vais aller
ouais. »
Puis est-ce que tu y allais à fond ou tu avais des doutes ou tu as vu différentes possibilités?
Moi, je pense que je suis allée à fond encore parce que c'est mon intuition qui m'a guidée. Parce que avant de choisir le Neuroactive Coaching, j'avais exploré puis recherché plein d'autres approches. Ça faisait des années que je lisais sur la psychologie humaine, sur le fonctionnement du cerveau, puis de plein de points de vue, tu sais, de... Fait que moi, quand que je lis quelque chose, j'ai comme un discernement de « Ah, ça fait-tu du sens ou pas pour moi? C'est-tu utile pour moi? Est-ce que ça m'aide ou ça me fait sentir comme plus coupable ou que, dans le fond, je suis pas normale ou, tu sais? » Fait que j'avais quand même exploré plein de trucs. Puis là, quand j'ai découvert le Neuroactive Coaching, que je me suis mis à lire là-dessus, et surtout que j'ai rencontré les enseignants, puis que j'ai vraiment ressenti que, OK, eux, ils dégagent quelque chose. Tu sais, ils l'incarnent, ce bien-être-là, puis cet équilibre-là. Vu que j'ai senti ça, ça a été tellement naturel pour moi d'embarquer dans ça. De dire, ben OK, eux autres, ils font pas juste en parler, ils vivent, puis ils partagent autour d'eux. Tu sais, ça fait, moi, c'est le genre de coach que je veux devenir. Fait que mes enseignants, Claude et Julie, ont été vraiment une inspiration pour moi. Parce que, encore là, la différence entre le monde plus spirituel que j'avais vécu, c'est que c'est pas rare, en tout cas dans mon expérience, d'être dans ces communautés-là, puis d'avoir plein de belles paroles, mais dans le concret, dans nos actions, on fait l'inverse. Dans l'action, les gens sont pas en paix, tu sais. Ils parlent de paix, puis de... Mais en réalité, ils évitent les problèmes, Fait que le Neuroactive Coaching, pour moi, c'était pas ça, là. C'était vraiment concret, et c'était complet. Parce que ça l'aborde, l'être humain, dans toutes ses sphères. T'sais, moi, j'avais exploré le côté plus spirituel. J'avais exploré beaucoup le côté physique par rapport à notre santé, comment physiquement ça a une influence sur notre mental. Fait que je cherchais quelque chose qui allait considérer tout ça. Parce qu'on est un être multidimensionnel, l'humain, t'sais, dans moi, ma compréhension des choses en ce moment, c'est ça le plus vrai. T'sais. Fait que le Neuroactive Coaching qui considère la biochimie de ton cerveau, l'aspect très concret, et l'aspect émotionnel de l'être humain, et l'aspect de trouver un sens à sa vie, qui, pour moi, ça se rapproche de la spiritualité. Tu sais, on n'a pas besoin de l'appeler comme ça, mais juste d'avoir un objectif qui fait du sens pour toi, ouais. C'est profond, là.
Ouais.
Fait que le Neuroactive Coaching, ça l'englobait tout ça. Puis là, je suis allée avec curiosité de « OK, je vais faire le cours une première fois pour le tester dans ma vie à moi. » Je vais appliquer tout ce qu'on apprend, je vais faire mon ménage, puis je vais mettre ça en action dans ma vie, puis je vais voir si ça marche. Puis ça a vraiment marché à un point tel que j'ai décidé de tout investir mon argent pour le refaire, pour le vraiment ancrer ma compétence pour être disponible pour l'autre parce que j'y crois que okay, c'est un métier qui a de l'avenir puis qui peut aider les gens. T'sais. Vraiment.
Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite de faire une démarche de coaching plus au niveau personnel, là, pour devenir coach, mais tu sais, quelqu'un qui sait qu'il y a certaines problématiques, qui sait qu'il n'est pas nécessairement aligné avec lui-même puis qu'il ne vit pas la vie qu'il veut vivre, as-tu un conseil à lui donner? Parce que là, il est dans le doute, disons, tu sais, qu'il hésite entre « c'est quoi je fais? »
La première chose qui m'est venue, c'est de ne pas avoir peur que tu vas perdre ton pouvoir là-dedans. Tu sais, c'est pas comme « hey, si je vais voir un coach ou je me mets à lire un livre de développement personnel, que là je vais me faire dire quoi faire, puis que ça, tu sais, ça va peut-être changer ma vie, puis d'une façon que je suis pas prête, ou tu sais, la peur de l'inconnu, puis du changement. » Je pense qu'il faut garder en tête que c'est toi qui décides c'est quoi ton rythme. Mm-hmm. Que s'il y a des changements ou des prises de conscience, que là, c'est comme « Ih, là, ma vie, elle change trop vite! » Hey, c'est toi qui décides, prends un break, là.
C'est ça.
Ou tu rencontres un coach, puis tu fais une, deux rencontres avec, puis là, t'es comme « Ih, non, moi, ce coach-là, je trouve que ça fait pas de sens ce qu'il me dit, ou je trouve qu'il me brusque. » Hey, lève-toi, puis pars. C'est ta vie, elle t'appartient, puis il faut avoir confiance en ce que moi j'appelle l'intuition, qu'il te le dit, c'est-tu bon pour toi ou pas? Puis prends le temps parce que c'est un processus. Écoute, depuis que j'ai 12 ans que je suis sur ce chemin-là de comme question existentielle, tu sais, puis de... Ça m'arrive à tous les jours encore d'avoir un comme... Ah, man, c'est nouveau, j'avais pas vu ça de même. Oh boy, la semaine passée, je pensais que j'avais raison, mais là, il faut que je réajuste ça, tu sais. Fait que c'est en constante évolution. Je suis vraiment pas parfaite, loin d'être parfaite. Puis dans 20 ans, je pense pas que je vais être parfaite encore. Je pense que je vais m'être améliorée. Fait que si tu gardes ça en tête, que comme t'es pas pressé, ton objectif, c'est de t'améliorer. La perfection, tu l'atteindras pas. Si t'es en paix avec ça, là, je trouve que c'est vraiment moins épeurant d'explorer, ben peut-être rencontrer des coachs, puis d'aller sentir ça te fait quoi. D'aller le voir, j'aime-tu ça ou pas? Si t'aimes pas ça, va essayer autre chose, t'sais.
Ouais, parce que c'est vrai ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de gens qui ont la peur du changement. Mm. Puis là, on se met à parler de cerveau, on se met à parler de compréhension, puis qu'on voit les choses différemment. Des prises de conscience, puis de « ok, je vois mon problème », puis est-ce que, tu sais, la peur de la plupart des gens, peut-être, c'est justement de se dire « si je m'en vais là, est-ce que après je vais être encore pire, tu sais, je vais-tu voir mes problèmes que j'essaie de camoufler depuis tant longtemps, que là, j'aurais plus le choix d'avancer, puis que ça, je serais pas confortable ». Dans le fond, la réponse, c'est non. Il y a un rythme qui est respecté. Pour
c'est
que
toi qui décides le rythme, exactement,
parce que… C'est le client qui fait le travail, au fond.
Si tu es avec un coach compétent, puis… Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot coach, il n'y a pas tant de réglementation autour. Ouais. Fait que c'est utiliser votre discernement parce que ce n'est pas tous les coachs qui sont formés. Mm-hmm. Sauf qu'un coach compétent qui exerce la réelle profession de coach, qui est l'art du questionnement, il a compris que c'est la base de respecter le rythme du client puis que ça ne lui appartient pas les décisions de quelle direction que le coaching va prendre ou de. Comment vite qu'on va y aller ou que là, c'est le temps d'aller voir ta peur. Le coach, il fait pas ça. Il te laisse, toi, venir à lui et dire « OK, là, je suis prête. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire ça. »
Puis c'est justement pour cette raison-là que l'intuition est hyper importante parce que les coachs, il y en a partout. Ouais. Tout le monde peut s'improviser coach, mais c'est pas tout le monde qui a les compétences. Puis c'est... Oui, tu sais, il y a une recherche à faire au niveau de c'est quoi tes compétences, c'est quoi que tu fais, mais le feeling que tu as avec cette personne-là, quand tu lui parles, puis quand elle te parle, est-ce que tu sens qu'elle peut vraiment t'apporter quelque chose, puis est-ce que tu sens qu'elle est compétente dans ce qu'elle fait? Il faut écouter ce feeling-là.
Totalement.
T'as tout à fait raison. Ouais.
Puis au-delà de la compétence, tu sais, comme moi, j'ai dit que plus jeune, j'avais déjà vu des travailleurs sociaux puis des psychologues. Je suis certaine qu'ils sont compétents, ces gens-là. Je pense que ce qui a fait que je ne m'étais pas vraiment ouvert à eux, c'était une notion de ça clique ou ça clique pas. C'était des gens qui ne me ressemblaient pas. Ça réveillait encore pour la jeune fille comme, OK, c'est un adulte qui veut m'aider, mais moi, j'ai même pas envie de devenir comme lui. Fait que pourquoi j'écouterais ses conseils, tu sais? Fait que je pense que c'est correct, puis c'est pas de dire que quelqu'un est pas compétent si ça fit pas. Si t'aimes pas la vibe à quelqu'un, t'as pas besoin de... C'est pas un jugement quelconque, c'est juste de trouver le bon match. Tu sais, on est tous uniques, puis c'est correct de trouver la personne que, ah, oh, OK, elle, j'aime ça, ce qu'elle dégage, tu sais. Puis c'est à ça, on revient pour faire une boucle avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est à ça que ça sert dans une optique comme de coach pour adresser une clientèle. C'est une opportunité de se présenter au monde. C'est de vraiment authentiquement dire, voici qui je suis, mes valeurs, tout ça. Donc, est-ce que je suis un bon match pour toi? T'sais, moi, je te présente ça pour que tu puisses voir si c'est le genre de vibe que tu as envie. Puis, il y en a tellement que si c'est pas moi, j'espère que tu vas trouver ce que tu as besoin. T'sais.
Oui, exactement.
Puis comme coach, toi puis moi, Sam, on peut aider les gens juste en étant nous-mêmes. Si on est quelqu'un d'autre, on sera pas... ça va réveiller, admettons, des conflits qu'on est imposteur ou peu importe. Fait que là, on sera pas totalement présent pour laisser l'espace à l'autre. On va être dans notre bataille intérieure à nous. Fait que je pense que c'est juste gagnant de s'assumer comme qu'on est, puis d'après ça, laisser les gens venir nous choisir comme qu'on est.
Ouais. Tu as fait un beau résumé. Puis, ouais, tu as totalement raison. J'aimerais qu'on parle, avant d'enregistrer ça, on discutait un peu des étiquettes.
Mm.
Parce que tu as passé par là, justement, que des étiquettes de, d'anxiété ou des étiquettes de troubles de ci, TDA, c'est des étiquettes qu'on met sur les gens pour expliquer un peu c'est quoi leur problème, tu sais, dire, regarde, toi, t'as un déficit d'attention, puis le résultat de ça, c'est que t'as de la difficulté à mettre ton attention soutenue sur une chose, puis, fait que tu as ça, tu sais.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les étiquettes?
Ah, je l'aime, ces questions-là! ben, génial si ça nous permet de comprendre quelque chose, parce que la compréhension, c'est vraiment un outil essentiel à avoir le pouvoir de changer. T'sais, si tu comprends pas c'est quoi le problème, tu peux pas le régler. Là.
Mm-hmm.
La première chose, c'est génial. T'sais, par exemple, en coaching, souvent, nous autres, on va parler de programme. C'est un mot, c'est pas une étiquette qu'on veut donner à personne, là, mais il faut bien qu'on se comprenne et qu'on mette un mot ces choses pour dire hey, ça, c'est une pomme, ça, c'est une banane. T'sais, on se comprend, on identifie les choses. Fait que si on utilise le terme déficit d'attention, anxiété, toutes les T, puis il y en a de plus en plus là, des termes pour se comprendre en ce moment, avec juste l'idée que c'est pour identifier puis nommer des symptômes ou des états qui sont présents en ce moment, cool! Là, on a un langage pour se comprendre, puis on peut même accéder à de la littérature de d'autres gens qui ont étudié ça, donc pour avoir accès à des solutions, cool! Là où je pense que ça devient vraiment problématique, c'est quand on s'identifie à l'étiquette, puis quand on se met à croire que c'est immuable. C'est quelque chose qui nous définit, sur lequel on n'a pas de pouvoir. Là, on se sent victime. On se sent victime de ça, on n'a pas de pouvoir. Puis avec tout ce que moi j'ai appris sur le cerveau, je ne crois pas à ça que ça ne change pas un cerveau. La neuroplasticité démontre que toute ta vie, il peut se transformer chimiquement ton cerveau. Donc, je pense que c'est possible d'avoir tous les symptômes de la dépression, tous les symptômes de l'anxiété, même du déficit d'attention, tu sais, que souvent la réponse, c'est juste c'est génétique, si tu l'as, tu l'as, si tu l'as pas, tu l'as pas. Je pense que tout ça, il y a possibilité de le voir comme n'importe quel autre programme, puis de dire, OK, bien, si on comprend la raison pour laquelle ce programme-là s'est activé en nous, bien, on peut retrouver le pouvoir puis le déprogrammer.
OK.
Je le vois de même.
Fait qu'il y a une possibilité de modeler chimiquement notre cerveau par la compréhension de soi, là, le fond. Par...
Moi, de mon expérience à moi, oui. Okay. Parce que je suis passée d'avoir des étiquettes, j'ai fait des changements, j'ai... Puis, c'est pas facile, par exemple.
Quel genre d'étiquette que tu avais?
Le déficit d'attention, moi, je l'ai eu. La dépression, l'anxiété, le trouble alimentaire, j'ai eu T'sais, maintenant, il y a toutes sortes de variations du trouble alimentaire, mais je mangeais pas assez, fait que ça ressemblait à de l'anorexie. Mais pour guérir de tout ça, tu passes par des crises de comme trop manger. Fait que là, il y a d'autres étiquettes pour ça. Puis dans le processus d'avoir ces étiquettes-là, ben j'ai été en contact. T'sais, en fait, moi, à 16 ans, j'avais tout lu le dictionnaire de la santé mentale. T'sais, fait que j'ai comme appris sur toutes les étiquettes possibles.
OK, mais est-ce que c'est toi qui te mettais ces propres étiquettes-là ou tu avais des diagnostics de professionnels?
J'ai eu des professionnels qui m'ont parlé de ça, t'sais, qui m'ont dit « oui, ça ressemble à ça. Toi, tu dois avoir ça. Puis si tu veux, tu peux prendre la médication, par exemple, pour la dépression. Okay. » Fait qu'il y a des professionnels qui m'ont dit ça. Sauf que là, moi, à ce moment-là, parce que comme énormément de gens dans notre société, j'ai fait comme confiance au docteur dans le sens que, ben c'est un docteur, il a raison. T'sais, moi, je connais pas ça, là, je connais pas ça, le cerveau. Fait qu'il doit savoir c'est quoi. Fait que j'ai comme donné mon pouvoir au docteur, puis j'ai fait, bon, ben lui, il sait c'est quoi mon problème, je vais le croire, il a raison. Fait que je me suis mis à m'identifier à ça. J'ai donné mon pouvoir à ça. Mais là, il n'y avait plus d'issue. T'sais, je savais plus quoi faire. Vu que j'ai accepté que ben c'est un docteur qui comprend mieux mon cerveau que moi, je savais plus par où aller.
Dans le fond, tu te sentais comme victime dans cette situation-là de l'étiquette. Parce que quand on dit étiquette, c'est un résumé des causes de quelque chose. T'sais. Fait que l'étiquette, en résumé de TDAH, mettons, c'est trouble d'attention avec hyperactivité. Fait que c'est un résumé de ce que ça te cause dans ta vie et des effets que ça a.
Ouais.
Fait que tu es tombé victime de ça un peu.
Oui.
Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, ça, d'être victime de ça? Comment tu te sentais à ce niveau-là puis dans cet instant-là?
Qu'il n'y a rien que je pouvais faire parce que c'est ça qui est ça. Comme un coup qu'un médecin m'avait donné une étiquette, à cette époque-là, c'était comme « Ah, ben c'est génétique ». J'ai comme perdu à la loterie de la génétique, puis moi, je suis prise avec ça. Fait que c'est là le sentiment de victime, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire, t'es différente. Ton cerveau, il y a comme un petit twist différent qui fait qu'il est plus susceptible à la dépression ou à l'anxiété.
Fait que apprends à vivre avec,
exactement,
parce que t'es pris avec ça.
Exactement.
Okay.
Puis tu sais, j'ai cru ça un bout, tu sais, puis mais c'est là que c'était pas assez, tu sais. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui... Avant de me faire dire ça, je me sentais pas tant que ça distraite. Je sentais pas que c'était si dur que ça de me concentrer. T'sais, c'est ça qui est arrivé, c'est que moi, c'était à l'adolescence que j'ai eu des étiquettes comme ça. Mais j'ai toujours été très bonne à l'école, très sociable, très, très joyeuse comme enfant. Moi, de la dépression, j'avais jamais vécu ça, t'sais. Fait que, il y avait quand même une partie de moi qui se disait, mais comment ça que j'ai jamais vu ça, que j'avais un déficit d'attention, moi? T'sais, comment ça que là, tout d'un coup, c'est le même, ça va toujours être comme ça, sauf que avant, ça allait très bien, t'sais. Puis plus que j'y croyais, mais plus que... Oublie ça, j'étais pas capable de me concentrer. Puis là... Ah, c'est ça que j'ai oublié tantôt. Ce qui est arrivé, c'est que mon cerveau, comme beaucoup, beaucoup de gens, s'est accroché à cette opportunité d'être une victime-là, comme « Yes! » Là, j'ai une excuse pour tout dans la vie. C'est pas de ma faute, j'ai un déficit d'attention. Ouais, mais c'est pas de ma faute, là, je suis en dépression, fait que je peux pas me botter le derrière puis sortir voir mes amis puis penser à eux. Hey, c'est pas de ma faute, je fais de l'anxiété, fait que tu peux pas toi vivre tes émotions parce que moi je fais de l'anxiété, je suis fragile, tu sais. Fait que là j'avais une excuse pour tout dans ma vie. Puis ben là ça l'a nourri la victime, mais comme pas juste par rapport aux étiquettes, mais par rapport à tout. Là. J'étais une victime pour tout dans ma vie, puis je suis devenue quelqu'un que j'ai pas envie d'être, tu sais, que... on n'est pas bien quand on est là. Notre cerveau, il nous fait à croire que oui. Pour vrai, le cerveau, il se fait à croire que « Ah, oh, je suis spéciale. Ah, oh, j'ai besoin de plus d'attention. Ah, oh, je suis donc incomprise puis différente. » Ça aussi, le cerveau, il aime ça, s'identifier à ça. Tu sais, un peu être un martyr. Il y a une partie de nous, l'ego, qui c'est comme si ça l'alimente quand on croit à ces histoires-là dans notre tête. Sauf que, à quelque part, ça nous siphonne de notre énergie. On n'a plus confiance en nous, on n'a plus... Les gens autour de nous, ils n'ont pas envie d'être à côté des victimes, tu sais. On n'est pas des gens qui contribuent puis qui enrichissent les gens autour de nous. On est des gens qui ont... On a besoin de béquilles puis de tout le temps d'être stressé, d'être traité plus spécialement parce que nous, on est fragiles, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est de valeur, mais c'est comme ça beaucoup pour les jeunes aujourd'hui parce que tout le monde a une étiquette de quelque chose, de trouble de la personnalité, juste déficit d'attention. Si t'as un déficit d'attention à l'école, mais t'as bien plus de temps pour tes examens, puis t'sais, c'est même que ça devient une façon pour les jeunes que les parents leur portent plus d'attention. T'sais, si ça va pas bien, moi c'était ça, ado aussi, t'sais, mais mes parents, ils avaient pas le choix, t'sais, de passer du temps avec moi, puis d'essayer de trouver des solutions, puis ci, puis ça, fait. T'sais, c'est par après que j'ai mis tout ça en lumière. Là. Quand j'étais dedans, je réalisais pas que je faisais ça pour avoir l'attention de mes parents parce que cette période-là de ma vie, t'sais, maintenant, je comprends que j'avais tous ces symptômes-là parce que ben, il se passait toutes sortes de gros conflits dans ma famille puis inconsciemment, moi, je les gérais comme ça. T'sais. Sauf que j'avais pas encore accès à ce point de vue-là. Puis il a fallu que je me rende à constater les conséquences de me positionner en victime, tu sais, à voir que, OK, mais c'est comme, même pour des amis, je suis lourde en ce moment parce que j'ai jamais de bonnes nouvelles à raconter, tu sais, puis à me constater que, man, j'ai pas d'énergie pour rien, justement, je suis démotivée, comme je disais au début, ma vie va être vraiment plate si je change pas. Fait que doucement, ben j'ai dû m'apercevoir que c'était moi. Qui s'était mis en victime. C'est moi qui s'était résigné à ça, puis que c'est vraiment pas le genre de personne que je veux être. T'sais, quand, justement, en coaching, là, quand je me suis assise, puis que j'ai eu le temps de me questionner, puis qu'un coach me dit, tu sais, me poser des questions comme c'est qui Mia? C'est quoi qui est vraiment important pour toi? Puis c'est quoi que tu veux dans la vie? Là? Quand j'ai pu réellement réfléchir à ces questions-là, ou toutes les heures en silence que j'ai passées toute seule avec moi-même, c'était comme me regarder dans un miroir, là, puis de voir, OK, regarde ta vie, ce qu'elle est devenue, puis tu veux-tu continuer ça? Ben c'est là que, à un moment donné, c'était tellement clair, mais voyons donc, moi, je veux être un rayon de soleil dans la vie du monde, là. Moi, j'ai le goût d'aider les gens, puis que, d'être la personne que comme, hey, Mia va venir super cool, j'ai hâte d'être là, puis ouais. Mia, c'est celle qui m'a aidée à sortir de mon problème, pas, tu sais. Pas, ah ouais, Mia, celle qui est tout le temps distraite puis lunatique parce qu'elle a un déficit d'attention, là.
Tu voulais pas devenir un fardeau pour ton entourage?
Ben non. Puis moi, pour moi, j'ai le goût de me sentir bien au quotidien, énergisée, inspirée, d'accomplir des projets juste parce que c'est le fun, la vie, dans ce temps-là, là.
Mm-hmm. Fait que dans le fond, l'étiquette, c'est pas bien ou mal, positif ou négatif. Ça dépend de ce que tu fais avec ça.
Totalement.
T'as un déficit d'attention, parfait. What's next? Est-ce que tu deviens victime de ton déficit d'attention puis tu perds tes responsabilités ou tu restes responsable puis tu dis, OK, ça va être plus dur peut-être à certains moments. Il va falloir que je fasse un travail différemment que quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention, mais c'est pas, je m'identifie pas à ça puis je tombe pas sous l'emprise de cette étiquette-là pour devenir le déficit ouais. d'attention. Je vais vivre avec ou je ouais. vais prendre des chemins différents pour le contourner, tu sais.
Ouais, puis je pense que c'est pas tout le monde, tu sais, qui va être victime d'une étiquette. Il y en a pour qui c'est vraiment salvateur, puis justement, c'était la clé pour qu'ils se comprennent, ouais. puis qu'ils accèdent. Fait que c'est pas de démoniser ces étiquettes-là qui aident plein de gens. C'est parfait. Je pense que, dans le fond, mon message pour tout ça, c'est plus à propos de la victime. Parce que si t'as une personnalité qui a tendance à comme il y a une partie qui voit comme une opportunité que ça soit facile si t'es une victime. Là, les étiquettes, là, si tu veux en trouver, tu vas en avoir à l'infini. Mm-hmm. Parce qu'on vit à une époque où est-ce qu'il y a une étiquette pour toutes. Là.
Mm-hmm. C'est ouais. comme des excuses.
Oui, parce qu'en en fait, c'est ça, c'est comme si tu veux trouver des problèmes, puis qu'est-ce qui marche pas, là, si tu te mets à réfléchir tout le temps à ça, tu sais, à... « Ah, je suis anxieuse. Ah, j'arrive pas à me concentrer. » Tu vas te mettre à en trouver de plus en plus.
Ouais, t'amplifies.
Tu l'amplifies parce que là, tu cherches inconsciemment. Ton cerveau, s'il croit quelque chose, ben, il valide constamment. Exactement. Ouais. Fait que si tu dis, ah, OK, j'ai cette étiquette-là, ça explique bien des trucs, mais là, j'ai plus le goût d'être ça. Qu'est-ce que je voudrais être à la place? Puis, hey, j'ai de la concentration, je suis motivée, j'accomplis des trucs qui ont du sens pour moi. Puis que consciemment, tu te pratiques à réfléchir ça dans ta tête. Puis que même si des fois, tu as l'autre scénario qui a le goût d'embarquer, tu ouh, je m'observe, je m'attrape, puis tu dis, hey, non, c'est moi qui lead, c'est ma tête, c'est moi, je sais pourquoi que je fais le choix de changer cette histoire-là. Ben, ça prend un petit moment, mais tu le reprogrammes, puis ton histoire, tu sais, dans le fond, là, c'est toi qui décides c'est quoi l'histoire de ta vie. Puis moi, mon histoire, je peux la raconter de deux façons presque opposées. Puis c'est mon choix de décider bien, à laquelle que je m'identifie. Je peux raconter mon histoire avec un point de vue de « Hey, j'ai une adolescence vraiment rough. » Ou « Est-ce que j'étais perdue, j'ai eu des étiquettes limitantes, il y avait de la chicane dans ma famille, puis j'avais pas de sens à ma vie, puis ça a été rough, j'étais tout seule. » Je peux raconter mon histoire de même. Ou je peux dire que « Hey, moi, là, je suis une jeune femme là, qui était sur une quête puis qui a exploré plein de choses, qui a appris à se connaître, qui a surmonté des défis, puis ça m'a permis de devenir quelqu'un d'extraordinaire que j'aime profondément aujourd'hui. » Fait que c'est puissant, les mots, là. C'est vraiment puissant sous quel angle tu la racontes, ton histoire. Puis même si je l'ai réinventée, réécrite, mon histoire, juste en changeant la perspective de où je la regardais, mon histoire, bien, quand je suis fatiguée, quand je vis des petits accrochages, bien, c'est encore fragile. Tout l'autre scénario qui se victimise, des fois, il y a le goût là, de me faire croire que « Ah! Tu vois, finalement... » Puis c'est normal. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter puis que dans le fond, tout ce développement personnel-là, ça ne marche pas. Et non, ça veut dire que tu es humain avec un cerveau que quand il y a des habitudes, ça prend du temps à les reconstruire. Puis que, comme tout le monde, mais quand on est fatigué, on est plus à fleur de peau. Puis, fait que c'est encore un processus de dire, « Hey, quand quelqu'un me demande c'est quoi mon histoire, puis c'est quoi que je fais dans la vie, puis pourquoi je fais ça, sous quel angle que je vais le raconter? » Puis ça, c'est ma responsabilité.
Très bien dit.
Merci.
Avant de terminer, j'ai une question. J'ai une question pour toi. En fait, j'aimerais que... Quel conseil tu pourrais donner ou qu'est-ce que tu aimerais dire à Mia de v'là 10 ans, mettons. Là, t'as quel âge? C'est pas indiscret.
J'ai 22 ans.
22 ans?
Ouais.
Fait qu'à Mia qui a environ
à 12 ans,
12 ans qu'est-ce que tu pourrais dire?
J'ai le goût de dire accroche-toi, ça va être correct. Tu t'apprêtes là, à passer au travers un tourbillon, là. Ça va être des années difficiles, mais tu vas voir, c'est tout ce que tu as besoin pour développer les muscles, la force nécessaire pour être l'adulte que tu veux être. Ouais. Fait que c'est correct. Puis si tu vis des difficultés, c'est parce que c'est assez fort pour les vivre.
Ben merci Mia de ton passage.
Merci Sam.
Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut en savoir plus sur toi.
Ouais. Les réseaux sociaux, mon Instagram de coaching, c'est mia.neuroactive. Donc ça, c'est une plateforme où est-ce que c'est moi comme coach toute seule qui de plus en plus là, je vais m'afficher là. Puis sinon, c'est mon site web Être Polaire, qui est un site web que j'ai avec une collègue qui est coach, qui a été formée avec nous aussi. Donc, moi et Vanessa, ma collègue, on offre toutes les deux nos services de coaching individuellement, mais on a aussi une association pour être au service des jeunes puis de leurs parents. Parce que, ben comme vous l'avez entendu dans mon histoire, c'est à l'adolescence que moi, j'ai eu le plus besoin d'aide. Donc, c'est cette clientèle-là que le fait que j'ai 22 ans, fait que c'est parfait, je peux être disponible pour eux. Puis ma collègue Vanessa, aussi, elle a une super belle histoire qui fait que c'est la cause des ados, ça la rejoint complètement. Puis ben les parents aussi ont besoin d'être accompagnés dans tout ça. Donc, êtrepolaire.com, c'est là qu'il y a toute mon information.
Cool! Donc, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez vous abonner et partager aussi parce que ça peut aider d'autres personnes à mieux se comprendre puis à aller de l'avant dans leur développement personnel. Sur ce, je m'appelle Sam Tucheno, Neuroactive Coach, et je vous dis à très bientôt.